part, nous avons la chance et la grande joie d'accueillir pour la troisième fois au groupe œcuménique d'Annecy, ici au Temple, Daniel Marguerat. Daniel Marguerat, c'est un grand savant. C'est un spécialiste de Saint-Paul. C'est un professeur de théologie du Nouveau Testament à Lausanne. C'est un traducteur de la Bible et des Actes des Apôtres dans la Bible Bayard en 2001. Mais c'est un grand savant qui sait se mettre à notre portée. Il a écrit plusieurs petits ouvrages qui sont très importants. Paul de Tarse, un homme aux prises avec Dieu. Il a écrit aussi L'homme qui venait de Nazareth, Jésus. Et enfin, il nous a aussi donné un livre sur Vivre avec la mort. C'est un livre qui, personnellement, m'a beaucoup apporté au moment où ma mère était mourante et avait 93-94 ans. En fait, il est là pour nous parler surtout de ce qu'il a désiré nous dire, Jésus, le juif et les débuts du christianisme. Le sujet est passionnant, le sujet est d'actualité, puisqu'il a participé récemment aux émissions télévisées donc sur l'Apocalypse, mais avant à Corpus Christi et avant à l'histoire du christianisme. Alors vous pourrez lui poser des questions sur cela et pourquoi cette participation, comment. Et nous le remercions beaucoup d'être venu ce soir.
Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, je suis content d'être à Annecy pour la troisième fois. Mais il faut dire que si je viens pour la troisième fois, c'est dû à l'insistance amicale de Françoise Paoli, qui sait non seulement me convaincre, mais surtout qui sait reprendre contact avec moi 6 mois après quand j'ai dit non, je ne peux pas venir. Je vois tout d'un coup dans ma boîte courriel réapparaître un mot de Françoise Paoli. Est-ce qu'éventuellement, voilà, bien. Donc c'est ce que j'appelle l'insistance amicale. Et puis je suis contente de me retrouver à Annecy aussi dans un groupe écuménique. C'est, je rencontre beaucoup de déçus de l'écuménisme. Des gens un peu déçus, pour ne pas dire un peu amers, il y a de quoi parfois. Mais j'aimerais dire ceci, pourquoi je suis contente d'être dans un groupe écuménique. C'est que l'écuménisme, il faut savoir où il se vit, vous savez. Il fut un temps que nous avons un peu quitté, c'est vrai, mais il fut un temps où l'écuménisme soufflait fort dans les hiérarchies ecclésiastiques. Et c'était des hiérarchies ecclésiastiques qui tiraient en avant le peuple de Dieu et qui l'entraînaient dans le mouvement enthousiasmant de l'écuménisme. Les hiérarchies ecclésiastiques connaissent plutôt un vent qui s'est rafraîchi, mais l'écuménisme continue à vivre, mais il vit dans le peuple de l'Église. Vous savez, je suis convaincu, mais absolument convaincu que ce qui, depuis une cinquantaine d'années, a été vécu sur le plan de la reconnaissance des uns des autres, de la reconnaissance de la part de vérité que chaque confession porte en elle, puisqu'aucune confession ne peut revendiquer à elle seule la vérité. Le Christ n'est pas enfermable. Ce qui a été vécu depuis une cinquantaine d'années de la découverte du caractère extrêmement précieux des différentes traditions chrétiennes, c'est un acquis irréversible. Personne ne le détruira. Personne ne pourra le réduire à néant. Personne ne pourra refroidir cela. Et donc actuellement, c'est vrai, c'est plutôt au niveau du peuple de l'Église que l'écuménisme se vit, mais il est très important qu'il vive là et qu'il fasse naître entre nous l'intérêt, la curiosité pour l'autre, le respect de la vérité de l'autre. Car si nous n'apprenons pas au sein du christianisme à nous respecter dans la grande famille chrétienne, comment pourrions-nous entrer dans ce qu'on appelle l'indispensable dialogue interreligieux aujourd'hui. Et donc l'écuménisme est un petit laboratoire de la tolérance. Donc j'aime bien revenir dans le petit laboratoire de la tolérance qui s'est installé et qui perdure à Annecy. Voilà. Alors, il m'a été demandé d'aborder la question de Jésus le Juif, et j'ai ajouté ça à mon titre, Jésus le Juif et les origines du christianisme. J'aimerais avec vous, dans un premier temps, dire quelles sont les nouvelles découvertes, les découvertes récentes que la recherche scientifique sur le Jésus de l'histoire a fait, et notamment la remise en valeur de la judaïcité de Jésus. Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais avec vous réfléchir à ce que ça signifie. Parce que finalement, que l'on redécouvre la judaïcité de Jésus, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans notre rapport au Christ? Et qu'est-ce que ça change dans notre rapport au judaïsme? Voilà. Mais dans un premier temps, d'abord, ces nouvelles découvertes scientifiques sur le Jésus de l'histoire, qui ont démarré à peu près dans les années 1980, donc presque 30 ans maintenant, c'est récent. Face à 2000 ans de christianisme. C'est étonnant toujours, hein, qu'au fond, après 2000 ans de christianisme, on puisse encore aujourd'hui découvrir une face nouvelle, une face peu connue de Jésus de Nazareth. Parce qu'on pourrait se dire, en 2000 ans, qu'est-ce qui n'a pas été dit, transmis, étudié, recherché, prié sur Jésus? Eh bien, si j'ose dire, le sujet n'est pas épuisé. Dieu merci. Le sujet n'est pas épuisé car effectivement, ce qui, parmi les chercheurs, et il est vrai que ceux qui, dans les années 1980, sont partis un peu en tête de cette recherche, étaient essentiellement des Américains, qui ont pour nom Marcus Borg, John Dominic Crossan, Ed Sanders, etc. Ce sont des Américains qui, au fond, ont ouvert un nouveau champ de recherche qui, précisément, nous a conduit à redécouvrir le fait que Jésus était juif. Vous me direz, c'est une évidence. Pas si sûr. Non, parce que, on pourrait dire, en simplifiant un peu, que nous étions habitués à considérer que Jésus de Nazareth était au fond le premier chrétien, une sorte de prototype du christianisme, né, qui avait vécu dans un judaïsme étriqué, rigoriste, tatillon et légaliste. Et que dans cette religion où Jésus affrontait des pharisiens tatillons, sévères et peu humains, Jésus s'était manifesté en héros libre d'une religion du cœur. Nous nous étions donc petit à petit accoutumés à considérer que Jésus avait essentiellement rompu avec son judaïsme natal pour inventer une nouvelle religion, plus profonde, plus directe, plus spirituelle, surtout moins légaliste, qui s'était peu à peu ramifiée dans les différentes branches du christianisme. Et puis, mais vous comprenez, c'est quand même le contre-coup de tout ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Au fond, la réflexion qui s'est faite sur la Shoah, mais elle a mis du temps, puisque ça n'est qu'en 1980 que véritablement la recherche sur Jésus de l'histoire a démarré. Au fond, la question qui a été posée aux théologiens, à la suite de la tragédie de la Shoah, a été de se dire, au fond, qu'est-ce qui a permis, finalement, à un antisémitisme aussi ravageant de s'installer, et pourquoi les freins à cet antisémitisme n'ont pas été suffisamment actionnés au sein du christianisme. Et la réflexion de ces théologiens a été que le christianisme était peut-être porteur d'un ferment, non pas d'antisémitisme d'ailleurs, contrairement à ce que disent des gens un peu trop facilement, l'antisémitisme n'est absolument pas une invention chrétienne. L'antisémitisme de l'Empire romain a de beaucoup précédé le christianisme et on connaît des pogroms, notamment à Alexandrie, qui se déroulent au premier siècle avant Jésus-Christ. Donc l'antisémitisme n'en est pas une invention chrétienne. Par contre, il est vrai que le christianisme a fortement alimenté l'antisémitisme et la question c'était de savoir il y a une lecture anti-juive ou antisémite des Écritures qui elles-mêmes ne sont pas anti-juives. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, est-ce qu'il n'y aurait pas dans la liturgie et même dans certains écrits du Nouveau Testament des textes, des expressions qui viendraient nourrir un anti-judaïsme? Et c'est là que la question s'est posée. Au fond, est-ce que les chrétiens ne méditent pas régulièrement des Écritures qui instillent en eux, à leur insu, une sorte de séparation entre, d'un côté, un judaïsme que Jésus aurait quitté, et d'autre part, un christianisme qui serait né, je dirais, dont la pureté aurait été d'échapper au judaïsme? Et c'est donc cette réflexion-là qui a conduit à se réinterroger sur ce qu'était le judaïsme au 1er siècle. Et dès le moment où cette question a été posée, qu'est-ce que le judaïsme au 1er siècle? Il est vrai que les réponses se sont précipitées et d'une manière, au fond, assez surprenante. Il est vrai que des découvertes récentes, par exemple la découverte des manuscrits de Qumran en 1947, a aidé à cela. Et on a découvert au fond que le judaïsme au 1er siècle était un mouvement extrêmement divers, pluriel, chatoyant de diversité. Que le judaïsme au 1er siècle était, au temps de Jésus, était une grande famille très diverse, très plurielle là encore, mais au sein de laquelle vivait à la fois une constante compétition sur la question de savoir quelle était la meilleure interprétation de l'Écriture, quelle était l'interprétation la plus fidèle de la loi, de la Torah, mais en même temps une grande famille au sein de laquelle on se savait lié par une connivence et une loyauté fondamentale. Je donne un exemple. Jésus a fait scandale en guérissant le jour du sabbat. Et les évangiles insistent, notamment l'évangile de Marc, sur ces nombreuses guérisons que Jésus accomplit le jour du sabbat. Et d'ailleurs, si vous lisez bien ces textes, vous lisez par exemple Marc 3, 1 à 6, au fond, on se rend compte que Jésus fait presque exprès. Je veux dire qu'il joue effectivement la provocation, et notamment, c'est Luc 13 qui nous raconte cela, dans l'évangile selon Luc, une femme courbée depuis 18 ans, que Jésus guérit le jour du sabbat, à la grande indignation du chef de la synagogue. On peut se dire une femme, au fond, courbée depuis 18 ans, pouvait attendre un jour de plus. Or, Jésus, précisément, symboliquement, choisit le jour du sabbat pour la guérir. Alors, nous avons l'impression que Jésus fait ce qu'aucun juif ne faisait, mais pas du tout. En nous plongeant dans les écrits du judaïsme au 1er siècle, ce sont des écrits qui ont été fixés littérairement un peu plus tard, mais en nous plongeant dans ces écrits, on se rend compte que la question de savoir ce qui était permis le jour du sabbat, ce qui n'était pas, était une question parfaitement ouverte, sur laquelle les juifs débattaient avec passion. Par exemple, la question de savoir lorsque un animal tombe dans un trou d'eau, dans un puits, est-ce que le jour du sabbat, on a le droit d'aller le chercher ou pas? Eh bien, les Esséniens de Qumran disaient non. Non, car aller repêcher un animal est un travail qui transgresse la règle du repos sabbatique. Par contre, les pharisiens disaient oui. Oui, car il s'agit de sauver une vie, sauver la vie de cet animal, tomber dans un trou d'eau. Et donc Jésus, lorsqu'il transgresse le sabbat, Jésus, je dirais, prend position dans un débat qui est un débat ouvert. Il n'a pas inventé la question, il va y agir d'une manière particulièrement tranchée. Et s'il en indigne certains, d'autres, considérons comme naturel, légitime, heureux, de guérir le jour du sabbat. Et si Jésus, justement, l'évangile de Luc, chapitre 13, guérit le jour du sabbat une femme courbée que Satan a liée, dit le texte, eh bien c'est pour manifester, c'est pour rappeler que qu'est-ce que le sabbat? C'est le jour où les croyants juifs chôment pour concentrer leur temps et leur énergie sur l'action de grâce à rendre au Seigneur pour l'œuvre de libération qui est la sienne. Or, guérir une femme, c'est la libérer. Donc le sabbat est par définition le jour où la libération que Dieu apporte à son peuple doit être concrétisée, manifestée, en l'occurrence, par cette guérison. Dit autrement, il y a provocation de la part de Jésus, mais cette provocation n'est pas gratuite. Elle vise précisément à dire, le sabbat, il est là pour magnifier l'œuvre de libération que Dieu opère, pas seulement dans le passé, dans les événements de l'Exode, mais aujourd'hui, dans la libération de cette femme. Autre exemple, on sait que les évangiles présentent ce résumé de la Torah. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En lisant attentivement le Talmud, qui est ce recueil de cette somme de l'érudition juive, on se rend compte qu'un certain nombre de rabbins ont condensé l'exigence de la Torah dans le commandement d'amour. Et qu'en particulier Hillel, qui est un grand rabbin pharisien de quelques décennies plus âgé que Jésus, eh bien Hillel, lui, a aussi résumé la loi dans ce commandement d'amour. Et que dès lors, au moment où Jésus radicalise sa lecture de la loi pour la condenser dans ce double impératif de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, Jésus, au fond, s'inscrit dans un mouvement et dans une question qui était permanente parmi les rabbis interprètes de la Torah. Et cette question était, au fond, quel est le plus important dans la loi? On a énuméré 613 commandements, 613 prescriptions que les croyants juifs devaient accomplir quotidiennement. 613. Ce qui a donné au judaïsme ancien cette réputation d'esprit tatillon ou procédurier, c'est en réalité le fait que les fidèles juifs au premier siècle, dans leur obsession de ne pas passer à côté d'une prescription de Dieu, attendaient de leur rabbi qu'ils tissent comme un réseau aux mailles très très serrées le réseau des prescriptions divines qui leur permettrait dans chaque circonstance de savoir comment être fidèle à l'impératif divin. Comment ne pas se trouver dans une situation de transgression ou d'impureté. J'ai donné l'exemple de la transgression du sabbat. J'ai donné l'exemple du résumé de la Torah, de la loi, par le double commandement d'amour. Je vais donner un troisième exemple. Et c'est l'exemple du rapport de Jésus aux règles de pureté. Ce qu'on mesure mal, c'est que, là encore, dans le judaïsme antique, les questions de pureté étaient des questions tout à fait importantes. Soit la pureté dans la gestion des aliments, ce qu'on appelle la cacheroute, qui est pratiquée aujourd'hui par les juifs pratiquants, ou bien la pureté dans le contact interpersonnel. De nombreuses situations rendaient impures tout ce qui avait rapport au sang, tout ce qui avait rapport à certains animaux. Se laisser approcher ou toucher par un chien rendait impur. Et pourquoi? Parce qu'un chien, ça se balade partout. Ça va renifler n'importe quoi, ça touche n'importe quoi, et en particulier, les chiens vaguant dans la campagne allaient effectivement ou s'approchaient de cadavres d'animaux. Or, le sang, la chair morte, était considéré comme rendant la personne impure et nécessitant des ablutions. De même, les femmes étaient une part importante de leur vie à cause de leur écoulement menstruel en situation d'impureté. Et dès lors, là encore, devaient être tenues à distance par des fidèles qui ne devaient pas hériter de cette impureté. Ou encore, les bergers, ou encore les tanneurs, que sais-je encore, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pouvaient être en rapport direct ou indirect avec des matières mortes ou sanglantes. Les malades étaient considérés comme impurs. Les malades étaient considérés comme impurs, et pourquoi ? Parce que la maladie était interprétée comme une sanction divine posée sur l'individu. Sanction divine posée sur l'individu, vous en avez d'ailleurs le rappel au début de la guérison de l'aveugle-né dans l'évangile selon Jean, Jean 9. Eh bien, dans les premiers versets, les disciples demandent à Jésus, est-ce lui qui a péché ou ses parents ? Car effectivement, si ce n'est pas les personnes, ce sont les parents, on remonte dans la généalogie pour chercher l'origine de cette sanction corporelle que la maladie représentait dans le judaïsme ancien. Et du coup, les malades, sous le coup d'une condamnation divine, dont leur corps signifiait la gravité, étaient rejetés de Dieu, donc impurs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les malades étaient marginalisés socialement, et les malades des malades, les purs des impurs, étaient les lépreux, qui vivaient dans des lieux inhabités, devaient se déplacer avec une clochette pour éviter que les voyageurs puissent se trouver en contact avec eux. Or, Jésus fait scandale, une fois de plus. Il fait scandale en se laissant toucher par les malades. Si vous lisez bien les récits, notamment dans l'évangile de Marc, les récits de guérison de Jésus, vous vous rendez compte au fond que Jésus se laisse toucher ou touche des malades. Il faut se rendre compte que ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une espèce de toucher thérapeutique, à la limite plutôt bienvenue, était en réalité un geste qui rendait Jésus impur. Et Jésus a manifesté une sorte de forme d'indifférence. Une forme d'indifférence à l'égard précisément des rituels de pureté qui, pour les pharisiens, étaient d'une importance tout à fait fondamentale. Jésus, précisément, a placé en dessus de l'importance donnée au rituel de pureté une exigence, un impératif irrépressible qui était de manifester la compassion de Dieu pour les malades. Et donc Jésus, lui, va courir le risque d'être déclaré impur, car pour lui, il était beaucoup plus important de signifier concrètement la réintégration du malade dans le rapport à Dieu, la réinstallation du malade dans le rapport à Dieu. Et du coup, pour Jésus, la guérison était moins un acte médical qu'une façon de protester contre cette confusion qui était faite de Dieu et du malheur. La confusion entre Dieu et le malheur de la maladie. Et Jésus refuse précisément que la responsabilité du malheur de la maladie soit attribuée à Dieu. Et le miracle vient dire ça, justement. La guérison vient dire ça, que Dieu n'est pas contre le malade, comme celui qui lui envoie la sanction de la maladie, que Jésus n'est pas l'agent punitif qui envoie la maladie, mais qu'au contraire, Dieu est celui qui lutte avec le malade contre le mal qui le dénature, contre le mal qui le défigure. Et c'est tellement, tellement important à répéter d'ailleurs aujourd'hui que Dieu est du côté de la victime de la maladie et non pas son bourreau. Et c'est bien ce renversement de l'image de Dieu, n'est-ce pas ? C'est ce renversement qui est au cœur de l'activité thérapeutique de Jésus, car Jésus fut un grand guérisseur et un guérisseur doué. Mais pourquoi était-il doué ? Non pas parce qu'il avait un toucher thérapeutique particulièrement efficace, mais parce que ses actes de guérison étaient porteurs d'un message, le message étant « Je ne suis pas moi doué d'une force thérapeutique, c'est Dieu qui te guérit. » Et Jésus était celui, au fond, qui venait comme médiateur pour réouvrir le rapport à Dieu avec les malades. Réouvrir un rapport avec les malades, un rapport qu'une mauvaise théologie de la maladie et du mal avait verrouillé. Le miracle, c'est au fond une sorte de protestation contre la fatalité du mal. Non, il n'y a pas de fatalité du mal. Non, Dieu doit être dissocié du mal qui défigure l'humanité. Alors, voilà un troisième champ d'activité de Jésus. Troisième champ d'activité, mais dans lequel, effectivement, Jésus ne fut pas seul. Jésus ne fut pas seul. D'abord, il y avait des rabbis qui étaient des rabbis guérisseurs. Et le Talmud nous relate quelques récits de miracles de ces, ou de guérisons de ces rabbis guérisseurs. Et puis, encore une fois, le grand Hillel, ce rabbi pharisien un peu plus âgé que Jésus, eh bien ce grand Hillel, lui aussi, allait répétant que la morale du rapport à l'autre était beaucoup plus importante que l'observation du rituel de pureté. Et donc, cette prééminence de la morale du rapport à l'autre sur la sauvegarde de la pureté personnelle, Jésus n'est pas unique à l'avoir déployé, de l'avoir dit, de l'avoir mis en œuvre dans le judaïsme ancien. Le sabbat, la lecture de la Torah condensée sur le commandement, l'impératif d'amour, et puis une pratique thérapeutique, une pratique du miracle qui dévalorise, qui disqualifie les règles de pureté. Voilà trois points sur lesquels, au fond, il est possible de montrer comment Jésus s'insère et s'incarne dans son temps. J'ajoute à cela une remarque. Et ça me fera parvenir à la fin de la première partie de mon exposé. J'ajoute à cela une remarque. Dans les redécouvertes, si vous voulez, les relectures qui ont été faites depuis 1980, on s'est beaucoup intéressé à une figure qui émerge au début des évangiles, avec régularité, et qui est la figure de Jean le Baptiste. Jean le baptiseur, vêtu de poils de chameau, mangeant du miel sauvage et rassemblant des disciples dans le désert et baptisant dans le Jourdain. Parce qu'effectivement, c'est très étonnant. C'est très étonnant que Jésus ait été baptisé. Pour dire pourquoi, hein? Pourquoi Jésus est-il baptisé? Quelle est la nécessité de cela? D'autant que l'évangile de Marc précise bien que Jean le baptiseur pratiquait un baptême pour la conversion des péchés. Alors quand on lit ça, on se dit, oui mais attendez voir, était-il vraiment indispensable que Jésus se présente à un baptême de Jean le baptiseur pour la conversion des péchés? Je reviendrai tout à l'heure à la question des péchés. Mais ce lien du baptême, il est d'autant plus significatif que, contrairement à la manière dont les choses se passent aujourd'hui, où des parents présentent leur enfant au baptême, dans le cadre du pédobaptisme, ils présentent leur enfant au baptême, et puis le pasteur ou le prêtre procède à l'acte de baptême. Puis voilà. Dans l'Antiquité, dans les quelques milieux religieux, ils n'étaient pas nombreux, où on pratiquait le baptême, il y avait les religions à mystère, il y avait précisément le cercle du baptiste, eh bien, le baptême est un acte par lequel on se lie à celui qui baptise. On l'accepte comme son maître. Et Jean le baptiseur était le maître de son groupe de disciples. Il avait des disciples comme Jésus était disciple, comme Jésus a eu des disciples. Et donc, du coup, on peut se demander, mais quelle était la nature du lien entre Jésus et Jean le baptiseur? Parce que Jésus ne s'est pas présenté au baptême comme aujourd'hui des parents, une famille, aux pasteurs et aux prêtres qu'ils ne verront peut-être plus jamais de leur vie. On se lie à celui qui baptise, on accepte son enseignement. Et Jean le baptiseur, lui, donnait une signification tout à fait fondamentale à son baptême. C'était le baptême qui permettait d'échapper à la colère du Dieu qui vient. Jean le baptiseur, c'est un prophète au message terrible. Le message, c'est la venue de Dieu est imminente. La cognée est déjà sur le tronc de l'arbre. Voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas la sortie en bateau, c'est la cognée qui va abattre l'arbre. Et c'est vraiment, je ne veux pas faire de jeu de mots facile, mais le message, le fond du message, vous avez compris, c'est qu'effectivement Dieu va cogner. C'est-à-dire, Dieu va venir détruire les méchants, les mauvais, les impies, débarrasser la terre d'Israël, la terre sainte, des impies qui la foulent, et assurer le triomphe des justes. Mais qui sont ces justes? Eh bien, ceux dont le baptême aura protégé l'intégrité et ceux qui se seront convertis. Le baptême est un lien à la conversion. Voilà le message de Jean le baptiseur. C'est un prophète des derniers temps. C'est un prophète au message terrible. Une prédication qui a eu d'ailleurs un certain succès. La preuve, elle a du succès auprès de Jésus. Puisque Jésus s'est présenté au baptême. Et si vous lisez attentivement les évangiles, notamment Marc, Matthieu et Luc, les trois premiers évangiles, on se rend compte qu'en fait, Jésus et Jean le baptiseur sont liés par de très très nombreux points communs. Jean le baptiseur annonce un royaume proche, Jésus aussi. Jean le baptiseur dit, ne croyez pas que vous serez protégés parce que vous êtes fils d'Abraham. Dieu de ses pierres peut faire naître des fils d'Abraham. Jésus, de la même manière, dit que l'appartenance au peuple d'Israël n'assure pas le salut. Jean le baptiseur a une prédication de conversion. Jésus aussi dit, le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous. Faites encore plus troublant, Jésus commence son activité publique au moment où Jean le baptiseur est emprisonné. C'est-à-dire à partir du moment où il disparaît de la scène publique, il sera emprisonné et mis à mort sur ordre d'Hérode. Donc, il y a une proximité étonnante que les évangiles ne voilent pas entre Jean le baptiseur et Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le raisonnement le plus plausible, c'est que Jean le baptiseur fut le maître spirituel de Jésus. Et que Jésus a fait partie du groupe des disciples de Jean. Il en a fait partie. Au début. Mais, et d'ailleurs ça n'est pas un hasard, que le christianisme ait repris un rite baptismal que seul Jean le baptiseur accomplissait au sein du judaïsme. Il y a un lien là. Il y a un lien entre les cercles de disciples du baptiste et le christianisme. Et vous ne lirez pas une seule parole critique de Jésus à l'égard de Jean le baptiseur dans les évangiles. Au contraire. Au contraire. Jésus plusieurs fois lie son destin à celui du baptiste. Et il se présente les deux comme des prophètes rejetés. Non, Jésus fut disciple de Jean le baptiste. Jésus a suivi, a entendu cette prédication de conversion, et de nombreux traits de sa prédication ressemblent à celui du baptiste. Simplement, Jésus a rompu avec son maître sur plusieurs points. Le premier point, c'est que, à la différence de Jean le baptiseur, Jésus n'est pas un ascète. Il prêche dans le peuple, il ne se retire pas au désert. Le deuxième point, c'est que Jésus ne se comprend pas comme celui qui annonce le royaume à venir, Jésus est celui par lequel le royaume se fait proche. Jésus est celui dont la parole et les gestes rendent proche le royaume. Et puis troisièmement, peut-être le plus important, l'image de Dieu s'est complètement inversée, à savoir que celui qui vient n'est pas le Dieu de colère, pour Jésus c'est le Dieu d'amour. Et sur ce point-là, Jésus a fait basculer le message de son maître. Le contenu théologique, l'image de Dieu s'est inversée et c'est l'expérience de Dieu chez Jésus qui lui a fait inverser l'image. Donc on voit bien tout ce qui lie, notamment dans la prédication de la proximité du royaume et de la conversion, Jean le baptiseur et Jésus. Et on voit les trois points sur lesquels Jésus va se distinguer, se distancer, rompre avec son maître, au moment où, lorsque Jean le baptiseur est emprisonné et n'exercera plus son activité prophétique, Jésus prend la relève. Mais vous allez me dire peut-être, mais comment est-ce qu'on peut imaginer que Jésus, le Fils de Dieu, est-ce qu'il a besoin d'un maître spirituel? Est-ce qu'il n'a pas tout ce qu'il faut chez lui? Mais là, je vous mets en garde, parce que, vous savez, qu'est-ce qui est au cœur de la foi chrétienne? C'est une foi en l'incarnation. C'est une foi en l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire, l'incarnation? C'est que Dieu se fait reconnaître ultimement dans un être humain, pas dans un zombie. Pas un zombie, un être humain, comme vous et moi. Et un être humain, il grandit. Et un être humain, il a besoin de... C'est un être de besoin, de désir. C'est un être qui a besoin d'être formé. C'est un être qui évolue. C'est ça, un être humain, pas un zombie. Et si nous pensons d'une manière conséquente l'incarnation, il nous faut consentir au fait que Dieu se fait reconnaître dans un être humain. Et un être humain qui grandit et qui évolue. Et le fait que cet être humain soit né dans un lieu particulier, le lieu du peuple d'Israël, qu'il ait reçu une éducation. Bon, je rencontre des gens qui, à la suite de conférences sur Jésus de l'histoire, disent « Mais écoutez, l'éducation spirituelle, non mais écoutez, quand même, fils de Dieu. » Mais non. Si vous lisez les derniers versets du deuxième chapitre de l'évangile de Luc, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que Marie et Joseph ont pris leurs enfants, puis ils sont allés en pèlerinage à Jérusalem, puis quand ils sont venus, l'enfant n'était pas là, et qu'ils se sont affolés comme n'importe quel parent. Puis qu'ils l'ont trouvé en discussion avec les sages dans le temple. C'est Jésus à 12 ans, Jésus adolescent. Mais bien des parents d'adolescents pourraient raconter une histoire analogue, pas identique mais analogue. Donc je veux dire que les évangiles portent aussi la trace de cette de l'humanité de Jésus. Et donc Jésus effectivement s'est formé, il a eu des parents, Joseph et Marie, qui l'ont appris, l'ont inséré dans la ritualité juive, l'ont entraîné dans les pèlerinages, plus encore, lui ont appris à lire, puisque Jésus sait lire les Écritures et qu'il sait prêcher. Il prêche dans les synagogues. Ce qui veut dire que Marie et Joseph avaient une conscience élevée de la dignité de leur enfant pour l'avoir doté d'une telle culture. C'est parti d'une élite. Même dans le judaïsme, ceux qui savent lire sont une élite. Donc, et ça me permet de conclure cette première partie. Au fond, quel est l'enjeu de redécouvrir comment et de quoi a vécu Jésus et de redécouvrir sa judaïcité? Eh bien, cela nous permet de prendre la mesure de l'humanité, de prendre la mesure de l'incarnation. Nous, vous savez, nous avons toujours un tout petit peu tendance à laisser filer Jésus, un petit peu comme les petits ballons, laisser filer vers le ciel. Puis heureusement, les petits ballons nous donnent avec une ficelle. Ben c'est ça l'incarnation, c'est la ficelle qui nous relie au ballon. Alors, n'ouvrez pas les doigts, parce que le ballon, vous ne le reverrez plus. Et il faut que Jésus reste à notre portée. Jésus fut celui qui, d'une manière unique et exceptionnelle, nous a dit et fait voir Dieu, d'une manière unique et exceptionnelle, mystérieuse. Mais il le fut dans l'épaisseur d'une existence humaine. Et donc, nous faire redécouvrir la judaïcité de Jésus, c'est faire droit à l'incarnation. Voilà donc ce que ces recherches nous permettent de redécouvrir ou de retrouver. Et donc, il ne s'agit pas tellement de s'indigner en disant, mais au fond, c'est rabaisser Jésus au niveau de n'importe quel être humain. Non, c'est mettre en évidence ce que fut son humanité. Et puis, j'aborde maintenant la deuxième partie, le deuxième volet. Rassurez-vous, il n'y en a que deux. Le deuxième volet de mon exposé, en disant, mais au fond, quand on dit cela, est-ce qu'on n'est pas en train de dire, ben voilà, au fond, ben, Jésus fut un juif un peu exceptionnel, disons, hein, un juif particulièrement brillant, ou un juif dont la prédication a reçu, a connu un succès sans pareil. Mais voilà. Et que finalement, c'eût pu être Hillel ou Hanina ben Dosa ou Rabbi Yohanan ben Zakkai, enfin bon, là, tant d'autres grandes figures de la spiritualité juive au 1er siècle. Et il est vrai que, autant, je dirais, peut-être que jusqu'à la première moitié du 20e siècle, on a considéré que, on a fait comme si, au fond, Jésus n'était pas un juif, ou n'était plus un juif. Autant maintenant, ce qu'on peut parfois lire va exactement dans le sens inverse. Va dans le sens inverse et nous présente un Jésus tellement juif qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi est-ce que le judaïsme, son temps, n'a pas voulu de lui? Pourquoi cette crise mortelle entre Jésus et ses contemporains, en particulier dans la décision prise par les autorités religieuses de Jérusalem? Et voyez qu'au fond, lorsque on aborde le mystère Jésus, il s'agit à la fois de bien prendre la mesure de son humanité, puis en même temps de se dire, mais qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui nous fait comprendre le caractère unique du personnage? Car encore une fois, si Jésus transgresse le sabbat, comme bien d'autres rabbis le font, si Jésus résume la loi à l'impératif de l'amour, comme Hillel l'avait déjà fait, si Jésus guérit comme d'autres rabbis guérissaient, qu'est-ce qui fait de lui cette figure unique dans l'histoire de l'humanité? Eh bien, c'est là qu'il faut bien chausser ses lunettes et regarder très attentivement. Alors, je vais reprendre les trois points dont j'ai parlé tout à l'heure, le sabbat, la lecture de la loi et le rapport aux règles de pureté, et vous dire au fond en quoi Jésus effectivement prend position dans un débat ouvert dans le judaïsme de son temps, mais en quoi précisément Jésus a pris des décisions, a été l'origine au fond d'un enseignement qu'il a rendu au sens propre insupportable et qui explique le fait que le judaïsme de son temps à Jérusalem n'ait pas voulu de lui. Car ce qu'on sait, mais il faut quand même que je le dise en passant, ce qu'on sait c'est que Jésus n'a pas imaginé le christianisme et n'a jamais voulu fonder une religion spécifique. Jésus voulait réformer le judaïsme. Et sa réforme fut un échec. Elle s'est soldée par son éviction. Et c'est l'échec de la réforme que Jésus voulait introduire dans le judaïsme qui explique que progressivement, le christianisme, de secte juive au départ, a peu à peu pris son autonomie. Et d'ailleurs pris son autonomie largement à cause de l'hostilité que lui vouait le judaïsme. Et que dans la séparation, le déchirement entre juifs et chrétiens au premier siècle, l'initiative de la séparation ne fut pas chrétienne, mais juive. On le sait bien, enfin les historiens du premier siècle le savent fort bien. Donc au fond, Jésus a voulu promouvoir une réforme du judaïsme qui fut refusée, et ses disciples, petit à petit, ont créé des communautés qui, de sectes juives marginales, ont peu à peu pris leur autonomie et ont amené le christianisme à ce déchirement avec sa religion originaire, le judaïsme, un déchirement qui s'est déroulé progressivement, grosso modo, entre l'année 70 et l'année 120. Mais je reviens maintenant sur le caractère original ou unique de Jésus. Je prends l'exemple de la transgression du sabbat. Comme je l'ai dit, les pharisiens savaient dire à certains moments, oui, pour sauver un animal qui va se noyer dans un puits, on transgresse le sabbat parce qu'on sauve une vie. Et que Dieu est le maître de la vie. Et que ça n'est pas honorer Dieu que de laisser mourir quelqu'un. Donc Jésus, lui, va transgresser le sabbat par ses actes de guérison. Mais les rabbis pharisiens, lorsqu'ils admettaient une exception au repos sabbatique, au chômage sabbatique, codifiaient cette exception. C'était possible dans certains cas. Dans certains cas. Et donc, cette codification est précisément à l'origine de cette prolifération de prescriptions et de réglementations dont j'ai parlé, qui aboutissait à ces 613 prescriptions. La caractéristique chez Jésus, c'est qu'il n'en dit rien. Jésus dit, qu'est-il permis de faire le jour du sabbat, le bien ou le mal? Réponse, bien entendu, le bien. Donc Jésus va placer la compassion envers l'autre, l'amour d'autrui, le respect d'autrui, comme une règle qui se superpose même à l'honneur qui doit être rendu à Dieu par le repos sabbatique. Mais à quel moment est-ce que le croyant doit respecter la règle du sabbat? Et à quel moment est-ce qu'il va être autorisé à dire non? Il est plus important que. Jésus donne à cela un exemple. C'est l'exemple de l'offrande au temple. Vous la trouvez en Matthieu 5. Ce sont les versets 23 et 24. Dans Matthieu 5, Jésus parle donne cet exemple. Si tu vas offrir ton offrande à l'autel, donc un sacrifice à l'autel, au temple, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, et ensuite reviens donner ton offrande. Ça veut dire, il y a une urgence plus forte, il y a un impératif plus grand, qui est l'impératif de la réconciliation. Et ça n'est même pas si tu es en pétard avec ton frère, non. C'est si ton frère a quelque chose contre toi. Tu n'en as même pas responsable. C'est lui qui a quelque chose contre toi. Eh bien, tu ne vas pas dire c'est son problème. Non, ça devient le tien. Parce que cela obstrue la relation entre lui et toi. Alors, il y a là une urgence plus forte, un impératif plus grand. Et c'est cet impératif-là qui peut même conduire à suspendre le rite sacrificiel. Et vous savez que les rabbis, de ce point de vue-là, ils autorisaient, mais dans des cas extrêmes, de suspendre le rite sacrificiel, c'est lorsqu'il fallait rendre les devoirs aux morts. L'accomplissement des rites funéraires autorisait de suspendre un rite sacrificiel. Seule exception. Et Jésus, lui, donne cet exemple, au fond, un peu banal, hein, parce que quelqu'un ait quelque chose contre vous, ça me paraît assez banal. Hein. Je veux dire, chacun peut en faire une petite énumération dans son agenda. Or, c'est précisément là, dira Jésus, l'urgence absolue qui va aller jusqu'à suspendre la règle sabbatique ou même interrompre le rite sacrificiel. Eh bien, qui va le décider? Eh bien, c'est l'individu. Personne ne le dira à sa place. Aucun maître, aucun rabbi, aucun ministre ne peut dicter à l'individu croyant ses priorités. Comme dans la parabole du Samaritain. À quel moment est-ce que je discerne chez l'autre un besoin, une détresse qui me détourne de mon chemin? Personne ne me le dit. Personne. Et Jésus, du coup, fait de chaque individu un sujet croyant, responsable de sa morale, responsable de son initiative, qui doit discerner, en tant que sujet croyant, à quel moment des impératifs deviennent pour lui des impératifs absolus. Pour que ce ne soit pas la loi qui fasse la loi, mais le besoin d'autrui qui fasse la loi. Eh bien, il n'y a que tes yeux et tes oreilles pour percevoir le besoin d'autrui. Alors, pour la transgression du sabbat, oui, Jésus va, comme d'autres rabbis, autoriser cette transgression. Mais la grande différence, c'est que ces exceptions ne vont être ni réglementées ni codifiées, mais que c'est l'individu croyant qui devient responsable au sens fondamental du terme, appelé à répondre des urgences qu'il discerne ou ne discerne pas. Dans le second champ dont j'ai parlé, récapituler la loi par le double commandement d'amour, amour de Dieu et amour d'autrui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on sait que la formule provient de Lévitique 19-18, et on peut lire ici ou là qu'au fond, Jésus aurait simplement répété ce que des rabbis avaient dit avant lui et que d'autres diront après lui. Il n'y a qu'à lire Lévitique 19-18 pour s'apercevoir que Jésus n'a pas inventé la formule. Oui, non, il n'a pas inventé la formule. Et il vivait dans un judaïsme des années 30 où d'autres le disaient. Mais oui, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Mais la différence, précisément, elle est énorme, c'est que Jésus va placer l'impératif de l'amour d'autrui comme le critère radical, comme l'impératif radical à côté duquel tous les autres tombent. Jésus a dit ce qu'aucun autre rabbi, même le grand Hillel, n'a jamais osé dire. À savoir que si pour répondre aux besoins d'autrui, pour exprimer le respect d'autrui, pour venir au-devant de la détresse d'autrui, il n'y a aucun autre impératif de la loi qui doit se dresser. C'est l'exigence absolue, répondre aux besoins de l'autre. Nul dans le judaïsme ancien ne l'a dit avec une telle radicalité. Et c'est en ce sens-là qu'effectivement, la prédication de Jésus était une prédication potentiellement destructrice. Destructrice d'un réseau de prescriptions qui permettrait d'enfermer toutes les situations dans un dispositif légal, permettant au fond, comme certains ordinateurs, d'avoir toujours la réponse en appuyant au bon endroit sur la bonne question. Non, il y a une invention de la fidélité, il y a une créativité de l'amour. Et encore une fois, ici, comme pour ce qui concerne la transgression du sabbat, Jésus instaure, Jésus construit le sujet croyant et lui confie la responsabilité d'être le créateur de ses actes d'amour. Car le moment où vous êtes appelé à vous rendre disponible pour votre fils, votre fille ou vos petits-enfants, pour les accompagner ou répondre à leurs questions ou entendre leur détresse, personne ne vous dictera le moment. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui pourrez, sûrement dans l'hésitation, dire « j'entends là une urgence » pour manifester ma solidarité proche ou lointaine. Il n'y a que vous. Et c'est précisément cet appel d'air, inouï, unique, que Jésus va provoquer dans la morale de son temps. Et puis, il y a le troisième champ dont j'ai parlé, après la transgression du sabbat et après l'impératif d'amour, qui récapitule la loi. Le troisième champ, c'est le rapport de Jésus à la réglementation de pureté. Alors là, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que qu'est-ce qui se passait, au fond, dans le judaïsme ancien et qui se reproduit tout à fait dans le communautarisme aujourd'hui? C'est que définir la pureté de quelqu'un signifie que cette personne vit dans un monde qui est potentiellement dangereuse pour lui. Il doit se prémunir de l'impureté dont sont porteurs les autres. Hein ? Donc du coup, le rapport au monde est un rapport de protection, de distance, de mise à distance, pour éviter d'être contaminé par des autres, par un monde, par une société potentiellement contaminant. Et c'est la raison pour laquelle les juifs pratiquants, et en particulier les pharisiens qui attachaient à la pureté rituelle une importance extrême, mettaient à distance les malades, mettaient à distance les femmes, mettaient à distance les pratiquants de toute une série de professions impures, mettaient à distance tous ceux qui avaient contact avec les Romains, tous ceux qui collaboraient avec les Romains, etc. Pour se protéger du danger de contamination qu'ils représentaient. C'est ce qu'on appelle une pureté défensive. Et un exégète allemand de Heidelberg, Klaus Berger, a, à mon avis, avec raison, dit au fond, Jésus, lui, a une conception non pas défensive, mais offensive de la pureté. Qu'est-ce que ça veut dire une conception offensive et plus défensive? Eh bien, c'est que l'autre n'est plus considéré comme un danger potentiel, mais qu'au contraire, être pur, c'est ouvrir ma relation à l'autre. Et non pas la considérer comme fermée et dangereuse. Une conception offensive de la pureté, c'est travailler à ouvrir les rapports à l'autre, la reconnaissance de l'autre, le respect de l'autre, détecter au fond tout ce qui, dans les images que je peux avoir de lui, de son sexe, de son ethnie, que sais-je encore, de son style, vient contaminer ma découverte de son identité. La conception d'une pureté offensive, c'est au fond celle qui considère que être pur, c'est ouvrir le regard sur l'autre, et tenter au fond de rendre justice et de manifester du respect à ce qu'il est, à sa singularité, à sa différence, sans considérer que cette singularité et cette différence sont a priori dangereux pour moi. Exercice difficile, je vous l'accorde. Exercice d'ailleurs tellement difficile que Jésus n'a pas survécu à cette constante ouverture de ses relations aux autres. Ses fréquentations ont été jugées scandaleuses. Mais c'est là qu'au fond, dans un débat, je dirais, qui n'est plus le nôtre, comme ça, comme tel, et parler de la pureté déjà, c'est utiliser un vocabulaire qui désigne une situation qui n'est plus la nôtre. Mais si je parle d'image, de préjugés ou d'image raciste, je peux tenter au fond de vous faire comprendre à quel point les pollutions ou les contaminations envahissent nos rapports sociaux aussi efficacement que la conception juive de la pureté envahissait les rapports interpersonnels dans la société juive au premier siècle. Et du coup, on peut comprendre le danger ou le péril qui a été discerné dans cette approche de Jésus qui, en faisant de la pureté une attitude offensive et non plus défensive, mettait en péril tous ceux qui considéraient qu'il n'y avait qu'une manière de sauvegarder la sainteté du peuple et l'honneur de Dieu, c'était de s'enfermer dans une forteresse. Forteresse mentale, bien sûr. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour que nous ayons, d'ici 10h moins quart, 10h, que nous ayons le temps de débattre un petit peu entre nous, soit de ce que j'ai dit, de la recherche sur Jésus de Nazareth, qui peut aussi explorer d'autres avenues, ou bien de reprendre tel ou tel élément qui est passé un peu rapidement ou qui vous a surpris ou déplu. Je me réjouis du temps de débat que nous allons avoir. Merci de m'avoir prêté attention jusqu'à maintenant. Donc, alors maintenant, on attend qu'un courageux ou une courageuse, c'est une, ça sera une courageuse. Allez-y, madame. Vous trouvez que je parle trop doucement? Alors moi j'ai l'impression, madame, que si j'ose faire la remarque, c'est que si vous avancez de 50 chaises, ça ira beaucoup mieux. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, madame. Il y a une chaise qui vous tend ses gambettes vertes. Oui, mais je répéterai la question pour qu'elle soit comprise de tout le monde. Et si quelqu'un d'autre n'entend pas très bien, qu'il le signale avec autant de liberté. Madame.
Qui redise la question que les gens auront posée.
Madame, je vous en prie.
Alors, j'étais quand même un petit peu choquée de que vous disiez que le Christ a été disciple de Jean-Baptiste. Alors que pour moi, s'il s'est prêté à ce baptême, Jean-Baptiste a tout de suite dit que c'est lui baptisé avec l'eau, tandis que le Christ baptiserait avec l'esprit. Il y a surtout l'intervention de la parole divine. Tu es mon fils. Et ça, cette reconnaissance du Père, je pense que dans cette progression de la maturité d'un homme bien incarné, juif et tout, vers cette mission, vers sa vie publique, c'était essentiel. La reconnaissance du Père. Voilà.
Oui, donc Madame dit au fond qu'elle était un peu choquée de m'entendre dire que Jean-Baptiste avait été le maître de Jésus, en disant que dans le baptême du Baptiste, enfin que le baptême de Jésus par le Baptiste était le lieu où Jésus entend la voix qui le déclare fils, hein, et que vous disiez dans la maturation de cet homme Jésus, la découverte de sa filialité divine proclamée au baptême était très importante. Je ne peux que souscrire à ce que vous dites et trouver que vous le dites fort bien. Mais oui, parce que précisément parce que les évangiles synoptiques, parce que Jean gomme cela, Jean, vous avez remarqué, l'évangile de Jean ne parle pas du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. On y reviendra tout à l'heure. Ça l'a un peu ennuyé, justement. À tel point que l'évangéliste Jean était un peu comme vous, il a gommé la chose. Oui. Mais on y reviendra. Ce que je veux dire, c'est que justement, les évangiles de Marc, Matthieu et Luc ont gardé la mémoire, mais comme vous le dites si bien, du caractère fondamental de ce baptême. Puisque c'est le lieu où Jésus se voit confirmer sa filialité divine. Et d'ailleurs, l'évangéliste Marc dit bien que les cieux qui s'ouvrent, l'esprit qui descend comme une colombe et la voix qui vient du ciel, c'est Jésus qui les perçoit. Hein? L'évangéliste Luc, lui, va dire voilà ce qui se passe. Mais l'évangéliste Marc nous a conservé le souvenir que Jésus vit les cieux s'ouvrir. C'est donc que le baptême de Jean, le baptiseur, a été pour Jésus l'occasion de ce qu'on appelle une expérience mystique. Comme de nombreux mystiques, d'ailleurs, ont vécu, une expérience mystique dans laquelle sa filialité divine a été confirmée, reconnue et proclamée. C'est dire justement l'importance extrême de ce baptême, ce qui redouble la question, mais pourquoi ? J'entends pourquoi par Jean le baptiseur. Alors, quand je dis maître spirituel, c'est en sachant que précisément, l'acte de baptême est un acte d'entrée dans une communauté régie par un maître. Dans l'Antiquité, c'est comme ça. Nous faisons de l'anachronisme en pensant, encore une fois, qu'on peut emprunter un baptême à quelqu'un puis s'en aller. C'est pas ça. Vous voyez ? Je veux dire, l'acte même du baptême signifie, de la part de Yeshua de Nazareth, l'adhésion à la prédication du Baptiste. C'est ça. Alors, les évangiles, effectivement, vont être... la tradition chrétienne va être très tôt ennuyée. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce rapport de Jean le baptiseur à Jésus plaçait Jésus dans une situation qu'on pourrait appeler hiérarchiquement inférieure, hein ? D'accord ? De subordination, exactement. Et que les premiers chrétiens ont été très ennuyés par cela. L'évangéliste Jean l'a été tellement ennuyé, d'ailleurs, qu'il a gommé. Il a gommé la scène du baptême, on ne la trouvait pas chez Jean. Il prête même à Jésus le fait d'avoir baptisé. Jean. Ce qui, très vraisemblablement, ne fut historiquement pas le cas. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que les évangiles sont écrits, disons grosso modo, le plus récent, Marc, fixé littérairement vers 65, Jean vers 90-95, hein. Ils sont fixés à un moment donné où les communautés baptistes et les communautés chrétiennes sont en rivalité. Et que disent les communautés baptistes ? Vous, les chrétiens, votre Seigneur, c'était en fait le disciple de notre maître. Et donc, les chrétiens vont petit à petit faire muter le rapport, le rapport entre Jésus et Jean, ils ne vont pas gommer la scène du baptême, ils ne vont pas gommer la parenté entre Jean le baptiseur et Jésus, mais ils vont par contre faire de celui qui fut le maître spirituel de Jésus, en fait son précurseur qui annonce quelqu'un de plus grand. Vous voyez ? Et donc le rapport était un peu inversé comme ça. Il était un peu inversé. Mais précisément à cause de ce trouble ou de cet embarras dont vous parlez vous-même. Donc vous n'êtes en aucun cas la première à l'avoir ressenti, puisque déjà dans les années 50-60, les premiers chrétiens ressentaient cet embarras. Mais ils ont maintenu, et heureusement, cet élément-là. Mais on s'aperçoit que si vous collectez tout ce que les évangiles disent du rapport entre Jésus et Jean le baptiseur, depuis Marc le plus ancien jusqu'à Jean le plus récent, eh bien vous voyez que l'image évolue dans le sens précisément d'une mise en évidence de Jésus et d'une progressive disqualification de Jean le Baptiste. Vous voyez ? Mais à cause de la concurrence dont j'ai parlé, et à cause de l'embarras également dont j'ai parlé. Pour éviter, encore une fois, de donner l'impression que Jésus est un maître. Mais quand je dis qu'il est un maître spirituel, mais encore une fois, on peut dire aussi de Joseph, le père, puisque dans les familles juives, c'est le père qui transmet l'éducation religieuse et pas la mère. Hein ? Joseph fut aussi le maître spirituel de son fils, comme tous les pères. Hein ? Et que si Jésus a appris à prier, c'est pas venu boum du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit utilise les médiations humaines. Ça a passé par Joseph et ses mains calleuses. C'est ce qu'on appelle l'incarnation, encore une fois. Donc, vous voyez, je crois qu'il n'y a pas... Parler de maître spirituel ne met pas en danger le fait que là où Jésus entre dans le cercle d'un maître spirituel, c'est en même temps le moment, le baptême, où lui est révélé quelque chose d'unique. D'unique, c'est sa filialité divine. Oui, monsieur.
Est-ce qu'il n'y a pas eu en fait le transfert d'une foi issue de la résurrection sur des épisodes comme celui du baptême, par exemple, qui aurait poussé à une lecture un peu différente du même événement ?
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu transfert, au fond, d'une foi, c'est-à-dire de la foi au Christ après la résurrection, après Pâques ? Ce qu'on appelle la foi post-pascale, dans la description des événements de la vie de Jésus. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand vous-même vous parlez de votre père aujourd'hui, c'est au nom de ce que vous êtes devenu, n'est-ce pas ? Donc c'est toujours à partir du point de vue que j'ai acquis que je vais relire l'histoire, et c'est d'ailleurs la distance, petit à petit, qui nous permet aux uns et aux autres de mieux mesurer quelles ont été les fêtes vraiment marquantes de notre histoire, quels ont été les personnages décisifs dans nos choix. Il n'y a que le temps qui passe qui nous permet peu à peu cette décantation qui nous fait dire, eh bien oui, l'essentiel se trouve là et l'accessoire se trouve là. Alors, bien sûr qu'après Pâques, parce que qu'est-ce que c'est que Pâques sinon l'expérience visionnaire par laquelle les premiers chrétiens reçoivent la conviction que Jésus, que Dieu se solidarise avec Jésus et confirme sa parole et son action. Pâques est au fond le sceau divin posé sur la vie de Jésus. Et il n'y a pas une parole des évangiles qui ne soit pas le fruit de cette conviction-là. Sinon, la vie de Jésus ne serait qu'une vie intéressante, mais aboutissant à un fiasco. Oui ?
Des écritures. Et j'ai beaucoup
j'ai réentendu ça ce soir en disant, est-ce que finalement Jésus c'était un juif, bon, comme tant d'autres, à la fois il a son caractère unique, comment on peut mettre en lien cette attente du Messie, cet avènement du Messie, et d'un autre côté, finalement c'était peut-être juste une réforme qui a échoué.
Alors, ce que vous dites, c'est comment est-ce qu'on peut relier le fait que ce que vous entendez comme, si je comprends bien, un jugement très disqualifiant, le fait de dire que Jésus a voulu réformer le judaïsme et a échoué, et puis ce que disent les évangiles de l'accomplissement des Écritures dans le Messie souffrant. Hein? Alors, quand je dis que Jésus a voulu réformer le judaïsme et que le judaïsme ancien a refusé cette réforme, ça n'a rien de disqualifiant, ça montre, ça explique pourquoi, enfin, ça explique ce mystère historique qui veut que de Jésus le juif qui s'adresse à son peuple naisse une religion autonome du judaïsme. C'est quand même un grand mystère historique. Et vous savez qu'un certain nombre d'historiens considère que le christianisme n'est tout simplement qu'une pitoyable trahison du message de Jésus. Alors il faut répondre à ça tout de même. C'est-à-dire qu'il faut rendre compte du fait que Jésus ne s'est adressé qu'aux siens, qu'à Israël, et que les quelques incursions dans la décapole, c'est-à-dire un territoire non entièrement juif, ne sont que des exceptions que l'évangéliste Marc, le premier, va mettre en évidence, parce que c'est la promesse de la conversion des non-juifs. Hein? Mais je veux dire, il faut rendre compte de ça, c'est-à-dire du fait que Jésus s'est adressé à Israël, qu'il est le Messie envoyé à Israël et qu'il s'est compris comme l'homme providentiel, le Fils de Dieu envoyé à Israël. Alors, comment relier ça au fait que, dès la fin du premier siècle, certaines communautés chrétiennes, et pas toutes, certaines communautés chrétiennes vivent dans la séparation totale avec le judaïsme et que le christianisme va globalement, à partir du deuxième, basculer dans une distance critique face au judaïsme. Alors, rendre compte de ça, c'est interroger l'histoire pour constater qu'il y a eu effectivement un déchirement, une séparation entre des communautés chrétiennes qui étaient initialement des sectes juives et qui petit à petit, d'une part du fait des relations extrêmement tendues avec la synagogue et d'autre part du fait d'un succès missionnaire venant essentiellement des non-juifs, va progressivement faire du christianisme une religion universelle mais ouverte, orientée surtout hors d'Israël. C'est une évolution historique qui n'est pas niable. Mais ça, c'est le constat historique qui explique pourquoi nous ne sommes pas juifs aujourd'hui. C'est un constat historique. Maintenant, le second point que vous soulevez, c'est la lecture théologique de cela. C'est autre chose, la lecture théologique. La lecture théologique consiste à dire, au fond, comment comprenons-nous la continuité théologique entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église ? Mais c'est une continuité théologique, c'est-à-dire au travers de ce que historiquement nous constatons comme une rupture, comme une séparation, comme une déchirure indésirable, comment est-ce que les premiers chrétiens ont vu une continuité? Et ça, c'est la question théologique. Alors, quand vous parlez de l'accomplissement des Écritures, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très tôt, les premiers chrétiens ont voulu montrer que ce qui s'était passé au travers de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, qui arborait tous les signes de la rupture, en réalité était une continuité théologique. C'est-à-dire que les premiers chrétiens se sont trouvés devant ce défi quasi impossible à le relever, d'expliquer comme inscrit dans le dessein divin la mise à mort d'un rabbi de Nazareth pour blasphème. Donc ce qu'ils ont voulu dire, c'est que cette mise à mort pour blasphème, en réalité, était une erreur théologique. Et quand on parle d'accomplissement des Écritures, ça veut dire qu'il y a en fait dans les Écritures des éléments qui permettent d'établir une continuité. Mais ce qu'il faut savoir quand on dit accomplissement des Écritures, c'est accomplissement de certaines Écritures. C'est-à-dire que les premiers chrétiens ont fait un choix. Quand nous disons, nous, par exemple, les chants du serviteur souffrant, Ésaïe 52-53, bien sûr, comment est-ce que les Juifs ont fait pour ne pas découvrir ça? Mais les passages qui, dans cet immense Ancien Testament, parlent du serviteur souffrant, tout petit arbre-poste. Ce sont les premiers chrétiens qui ont découvert là quelques éléments parcellaires qui leur permettaient, vous voyez, de tracer une continuité. Donc, si je résume, et ils l'ont fait précisément pour montrer qu'il y avait une logique divine, hein, non pas pour dire que Jésus, enfin que Dieu a programmé la tragédie de la croix. On sait bien que ce n'est pas ça. C'est une lecture d'après-coup. Hein. Donc, en gros, ne mélangeons pas, un, le plan historique, qui montre une rupture entre ce qu'a voulu Jésus, son échec, et la réussite de son mouvement spirituel, sur le plan historique, et d'autre part, une lecture théologique absolument contestée par le judaïsme. Et il a le droit de le contester, comme les chrétiens ont le droit de dire, mais nous lisons ainsi ces parcelles d'écriture qui permettent d'établir, de reconnaître, de percevoir une logique divine qui permet de surmonter cette fracture. Oui.
Point 1, point 2, le Christ est venu au moment de la domination romaine. Est-ce qu'il n'a pas, par un génie propre, vu que l'évolution politique demandait une version exportation, parce que le phénomène du judaïsme ne pouvait plus se faire. Là, on entre un peu en collusion avec l'histoire. Et quelqu'un d'autre a dit une religion est une secte qui s'est mise en collusion, je ne sais pas quel mot il faut dire, avec un pouvoir civil pour le maintien de l'ordre.
Alors, ou bien vous avez lu Paul Vane, ou bien vous avez lu Paul Vane, ou bien vous avez regardé les émissions de Mordia et Prieur Apocalypse. Car c'est la thèse que défendent les uns et les autres. Alors, première question, lorsque Jésus dit les Juifs, est-ce qu'il n'établit pas une distance critique? Puis deuxièmement, est-ce que Jésus n'a pas saisi l'opportunité de l'Empire romain pour faire une opération de marketing religieux, ça c'est moi qui dis, et au fond profiter de l'universalité romaine parce que le judaïsme était un peu à bout de souffle pour penser l'universalité. Alors, première question, quand Jésus dit les Juifs, vous avez souvenir de lecture où Jésus dit les Juifs? Ou dans l'Écriture? Voilà. C'est dans le seul évangile de Jean. C'est dans l'évangile de Jean que le narrateur parle des Juifs. Il y a une seule exception chez Matthieu, c'est Matthieu 28. Hein. Mais autrement, chez Matthieu, à part cette exception, chez Marc et chez Luc, vous n'avez pas l'appellation les Juifs. Par contre, elle pullule dans l'évangile de Jean. Et pourquoi dans l'évangile de Jean? Parce qu'effectivement, l'évangile de Jean nous dresse le portrait assez curieux d'un Jésus qui parle des Juifs comme s'il ne l'était pas. C'est un pur anachronisme. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jean est rédigé dans sa version définitive dans les années 90 au sein d'une chrétienté attachée à la tradition de Jean et en conflit ouvert avec la synagogue. Et les Juifs sont les ennemis, les adversaires, les oppresseurs. Donc, l'image des Juifs dans l'évangile de Jean exclusivement, je répète et j'insiste, ni Marc, ni Matthieu, ni Luc. Mais dans cet évangile-là, le portrait des Juifs correspond non pas au portrait des Juifs de l'an 30, mais il correspond au portrait des Juifs hostiles à la chrétienté johannique des années 90. Et donc, c'est un anachronisme. Vous voyez ? C'est comme si on mettait une montre à un chevalier du Moyen-Âge. Mais tous les historiens travaillent toujours un peu comme ça, par anachronisme quand même. Hein, voyez. Donc ce que je veux dire, c'est que la distance, ce n'est pas celle de Yeshua de Nazareth avec ses contemporains de l'année 30. C'est la situation conflictuelle des chrétiens destinataires de l'évangile de Jean dans les années 90 et des juifs de la synagogue. Voilà. Pardon ? Ça vient après 70, et la destruction du temple, et la montée. Voilà, mais surtout la montée de l'orthodoxie juive qui devient hostile au christianisme. Et à partir de l'an 70, ou 70, comme on peut dire en dialecte, eh bien, les relations chrétiens juifs vont basculer. Vous voyez ? Mais ça tient à cet évangile-là, celui de Jean. Bien. Maintenant, alors. Le judaïsme à bout de souffle. Alors, il y a quelque chose, d'intéressant dans ce que vous dites. C'est que pour que le christianisme devienne une religion universelle, il a fallu un mouvement et singulièrement un homme. L'homme, c'est Paul. C'est Paul. Quoi qu'on en dise, et quelle que soit la réputation malheureusement assez fâcheuse qui est attachée à Paul, mais enfin, une année Saint-Paul devrait vous permettre quand même de relire Paul et de redécouvrir ce qu'il est, indépendamment des casseroles qui lui sont attachées. C'est que Paul est l'interprète de Jésus. Paul est effectivement celui, il n'est pas le premier, mais c'est celui qui l'a fait de la manière la plus cinglante et la plus brillante. Paul a exprimé l'universalité de Dieu. C'est-à-dire le Dieu de tous et de chacun, le Dieu du juif et du grec, tel que Jésus n'a pas fait. Jésus a dit un Dieu universel à l'interne du judaïsme. C'est-à-dire que Jésus a, à l'interne du judaïsme, contesté toutes les barrières placées en particulier par la régulation de pureté. Hein ? Mais c'est un Dieu pour tous les juifs. Vous voyez ? Ça, c'est le Dieu de Jésus. Paul, va formuler l'image et la doctrine du Dieu universel, qui accueille inconditionnellement tout homme qui croit, c'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Mais ça, c'est la formulation de Paul. Donc, celui, c'est pas un Jésus qui serait dit, bon, comment ça pourrait marcher là, hein? Quel est le truc pour avoir une religion universelle? Non, c'est précisément ce qui se passe dans la manière dont ce génie théologique que fut Paul a reformulé à l'externe du judaïsme, je dis à l'externe parce que sa prédication s'adresse à la fois aux juifs et aux non-juifs, tandis que Jésus parle à l'interne du judaïsme, donc Paul va à l'externe formuler ce qu'on appelle aujourd'hui l'universalisme chrétien. Et il se trouve que, alors, contrairement aux thèses simplifiantes ou simplifiées, soit la thèse de Paul Vane, soit la thèse de Mordia et Prieur, c'est qu'il est parfaitement juste de dire que le christianisme, de secte qu'il fut au 1er siècle, s'est mué en une institution religieuse potentiellement universelle, puisqu'elle fut adoptée, puisqu'elle fut tolérée par Constantin, puis adoptée comme religion d'État par Théodose, hein, notamment l'édit de Théodose 389. Donc il y a une mutation d'un mouvement sectaire ou sectarisant, 1er siècle, à une religion universelle. Mais il faut savoir que, pourquoi cela se passe ? Ça n'est pas du tout la soif de pouvoir de quelques évêques du 3e siècle ou du 4e. C'est que tout simplement, à l'Empire romain, dont l'idéologie était effondrée, et l'Empire romain qui n'était plus crédible, parce que c'est l'Empire romain qui a la prétention d'être écuménique. Auguste est l'inventeur de l'écuménicité romaine. L'oïcouménée était un slogan politique impérial avant de devenir un slogan chrétien, 1945. C'était un slogan politique impérial. L'Empire romain, qui était très tolérant en matière religieuse, quoi qu'on en dise, exerçait justement cette prétention de rassembler tous les peuples dans un même appareil. Et c'est la raison pour laquelle le culte de l'empereur était si important, parce que c'était l'adhésion à ce grand corps social qu'incarnait l'empereur. C'est donc un empire romain dont l'idéologie s'effondre, qui n'est plus à la hauteur de sa prétention à l'écuménicité, qui va choisir le mouvement religieux qui sauvegardera son écuménicité. Et le christianisme va offrir à l'empire un substitut d'écuménicité politique. Alors, dans la thèse de Mordillat et Prieur, qui sont deux historiens documentalistes très intelligents, brillamment intelligents, que j'aime beaucoup, leur thèse historique, je n'y adhère absolument pas. Leur thèse historique n'est pas crédible. Parce que ils présentent au fond le christianisme comme un mouvement en appétit de pouvoir et désireux de s'emparer du pouvoir politique. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Le christianisme a été le mouvement permettant à un empire dont l'idéologie s'effondrait de retrouver une structure universelle. La seconde erreur d'ailleurs qu'ont commise Mordillat et Prieur, c'est qu'ils prennent comme point de départ l'Apocalypse. En disant, le christianisme au premier siècle était non seulement une secte juive, mais une secte juive hostile au monde et hostile à l'Empire. Et par les édits de Théodose de 389, elle se mue en son contraire. Et à leurs yeux, cette alliance coupable et contre nature avec le pouvoir politique les conduit à devenir oppresseurs. De persécuter, ils persécutent ceux qui ne pratiquent pas le christianisme. Mais c'est le point de départ qui est faux. Je veux dire par là, l'Apocalypse ne représente qu'un tout petit fragment minoritaire du christianisme au premier siècle. Toute la chrétienté paulinienne est parfaitement intégrée dans l'Empire. Un rapport ouvert, positif, favorable à l'Empire romain. On a même beaucoup reproché à Paul ce qu'il écrit en Romains 13 sur la soumission aux autorités. C'est pas l'Apocalypse, ça. Le christianisme d'origine, c'est pas l'Apocalypse. Le christianisme d'origine, il est tout à fait pluriel. Il est divers. Il est ramifié. Autant que l'était le judaïsme des ententes. Alors, ne résumons pas le christianisme des origines à l'Apocalypse. Non, c'est une variété sectaire du christianisme au premier siècle. Mais bien sûr, mais elle est tout à fait particulière et fragmentaire face à la grande majorité du christianisme installé dans l'Empire, qui a une relation ouverte et qui est parfaitement intégrée à l'Empire. Et c'est précisément parce qu'il est parfaitement intégré à l'Empire que l'appareil impérial pourra se servir de lui. Voyez, on ne peut pas se servir d'une secte hostile à l'Empire pour en faire tout d'un coup la garantie idéologique d'un appareil politique universel. Pas possible. Ouais.
Il y a tout de même que l'empereur était déifié, un dieu. Et il était question de mettre le statut de l'empereur dans le temps. Ça peut expliquer beaucoup de.
Oui, mais d'accord, mais. Ok, d'accord, j'attends, mais. Alors, c'est effectivement ce que Caligula va tenter, n'est-ce pas? Antiochus Épiphane a installé la statue de Zeus. Ce fut une rébellion. Mais là, on est au deuxième siècle avant Jésus-Christ et c'est la période du livre de Daniel, d'où les guerres macabéennes. Ensuite, Caligula a tenté d'installer dans le temple de Jérusalem la statue de l'empereur. Il n'y a pas réussi. Je veux dire que la résistance religieuse du judaïsme à l'impérialisme romain, cette résistance a été totale. Elle n'a cédé au fond qu'à la suite des deux guerres juives successives, mais par le poids des armes. Mais la résistance religieuse n'a jamais cédé. Et si militairement et politiquement Israël a perdu les deux guerres juives, la guerre de 70 et puis la guerre de 115, eh bien, sa résistance religieuse n'a pas été entamée. Oui ?
Je serais heureux d'avoir votre sentiment sur le fait de l'exclusion par les autorités juives de Jésus concernant la conception que le monde juif avait de la sainteté, de la très haute sainteté de Dieu. Donc il met un obstacle à la compréhension d'une incarnation. Est-ce que la toute transcendance de Dieu ne met pas, pour les autorités, pour la mystique juive, un obstacle à penser que ce Dieu-là, transcendant, puisse être aussi incarné?
Et donc vous diriez, dans le rejet de Jésus, il y a le rejet de l'incarnation en réalité. C'est ça que vous voulez dire?
Oui, il y a l'impossibilité pour une très haute spiritualité qui met un Dieu très haut, très saint, tel qu'il est présenté dans la Bible, pour une capacité de pouvoir prendre une existence humaine.
Oui.
Tellement différente donc d'une existence divine.
Donc au fond, est-ce qu'on n'aurait pas dans l'incarnation de Dieu dans le Christ le motif de son rejet par le judaïsme?
D'une certaine façon.
D'une certaine façon. Donc, le problème, c'est que les évangiles n'en souffrent pas un mot. Et que le débat sur l'incarnation n'est pas un débat ouvert dans les évangiles. C'est un débat qui va s'ouvrir au 2e et 3e siècle et qui est interne au christianisme. Je veux dire, ce que nous appelons la doctrine de l'incarnation, cette doctrine-là, elle naît au 2e et 3e siècle.
Mais le sentiment de rejet ne peut pas venir de cette conception de la très haute sainteté de Dieu. À votre avis.
Alors, il y a bien une résistance, il y a bien une résistance que les interlocuteurs de Jésus dans les évangiles lui opposent. Mais cette résistance, elle n'est pas posée en termes ontologiques, parce que l'incarnation se pose en termes ontologiques. Elle est posée en termes d'abus de pouvoir. Marc 2, qui a le droit de pardonner sinon Dieu seul? Au moment où Jésus guérit le paralysé, et devant la protestation des scribes, Jésus va dire « Tes péchés sont pardonnés ». Et l'indignation n'est pas « Mais Dieu peut-il s'incarner dans un homme ?» Ce n'est pas ça le problème. Encore une fois, c'est pensé en termes des siècles suivants. C'est « Dieu seul peut pardonner ». Alors, on peut dire « Dieu pardonne », mais déclarer d'une manière autoritaire et performative « tes péchés sont pardonnés », c'est outrepasser. C'est outrepasser, au fond, la limite humaine face à Dieu. Alors ça se pose, vous voyez, dans ces termes-là.
Et dans Jean 8, on entend parfois quand même les Juifs dire « toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu ». Et dans le procès de Jésus lui-même.
Oui, parce qu'il se faisait l'égal de Dieu, hein. C'était également, se faisait l'égal de Dieu, ça c'est quelque chose, mais justement, comme ce qui était dit au fond de Jésus qui dit les Juifs, ceci parce qu'il se faisait l'égal de Dieu, vous ne le trouvez que dans le 4e évangile. Et pourquoi? Parce que c'est le reflet de ce que la synagogue des années 70-80 dit aux chrétiens. C'est qu'ils confondent Jésus et Dieu. Mais ce n'est pas encore pensé en termes d'incarnation. D'accord? C'est se faire l'égal de Dieu, c'est-à-dire prendre sa place. Se faire comme lui. Mais se faire comme Dieu, c'est un abus de pouvoir, c'est de l'orgueil spirituel, c'est pas encore mettre en place une théologie de l'incarnation. La théologie de l'incarnation, encore une fois, c'est-à-dire essayer de résoudre ce mystère. Comment est-ce que Jésus peut être à la fois complètement humain, sinon l'incarnation n'est qu'un simulacre, et en même temps être complètement du côté de Dieu? Comment un complètement humain peut être porteur de la parole ultime sur Dieu? Eh bien, ce mystère-là, le 2e et 3e siècle vont le penser en termes d'incarnation, et nous léguer des formules qui parfois nous complique la vie plutôt qu'autre chose, en tentant de dire qu'il est lumière, né de la lumière, etc., et dans des formules, par exemple, du credo de Nicée-Constantinople, tentant précisément de dire par des paroles dissibles ce qui est indicible. Et ce qui est indicible, c'est Jésus fut complètement homme, et en même temps, il, hors de toute capacité humaine, il a reçu cette grâce de nous dire complètement Dieu. Alors, les débats christologiques ont tenté de le dire en termes de nature. Est-ce la meilleure manière de le dire ? Il nous faut trouver d'autres mots maintenant pour dire le mystère. Il ne s'agit pas de réduire le mystère, mais il faut tenter de dire le mystère probablement dans d'autres mots pour le rendre... Qu'est-ce qu'il faut dire ? Plus compréhensible peut-être. Oui.
Le Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu lui-même. Ça n'apparaît dans aucun évangile. Il ne l'a jamais dit.
C'est un reproche qui lui est fait. Absolument. Lui qui se dit, ce sont toujours les interlocuteurs, lui qui se fait l'égal de Dieu. Absolument. Oui. Oui. Oui.
Mais dans le cadre de l'impérialisme militariste romain et du génocide des révoltés juifs qui ont été pratiquement tous éradiqués de Palestine, vendus comme esclaves, au fond, au point de faire baisser le prix des esclaves, est-ce que le terme roi des juifs pourrait être considéré par les Romains et peut-être par leur pense Pilate comme un danger potentiel?
La guerre que les légionnaires de Titus dans la première guerre juive ont menée contre les guerriers zélotes n'était pas un génocide. C'est une guerre militaire. Je veux dire que les habitants de Jérusalem n'ont pas été massacrés. Les résistants zélotes l'ont été. Donc, ça n'est pas un génocide. C'est une guerre. Non, c'est une guerre qui oppose une armée organisée, fort bien, la Légion, et une guérilla. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'était passé, c'est ce qui se passe encore. Pas par un tragique renversement des rôles. Alors, voilà. Donc, maintenant, vous posez la question, roi des Juifs. Alors, le terme roi des Juifs... Le terme roi des Juifs, on le sait maintenant, alors ça c'est précisément, il y a un auteur qui a été passablement relu depuis les années 1980, c'est Flavius Joseph. Flavius Joseph est un écrivain et historien juif des dernières décennies du 1er siècle qui a écrit La guerre des Juifs, puis une œuvre monumentale qui s'appelle Les Antiquités juives, hors d'autres, deux autres livres encore. Mais notamment dans La guerre des Juifs, il raconte l'histoire de la rébellion juive. Et alors, ce qu'il nous raconte, c'est très intéressant parce qu'il montre, qu'en fait, durant l'occupation romaine, juste avant et juste après le début de l'ère chrétienne, plusieurs figures charismatiques dans le judaïsme se sont levées et se sont proclamées rois des Juifs. Ils ont, dit Flavius Joseph, ceint le diadème royal, et notamment un berger qui s'appelait Artrongès. Et ces figures-là, qui se sont multipliés à l'époque de la mort du roi Hérode le Grand, en moins 4, et à la déposition d'Archélaüs par Auguste, en plus 6. Et en sein des royales, c'est-à-dire se sont proclamés rois, et ont voulu établir la théocratie divine en rassemblant autour d'eux leurs sympathisants, qui étaient des petits artisans, des bergers et des paysans, et qui sont venus avec leurs fourches et leurs cailloux affronter les légions romaines et qui se sont fait, bien entendu, massacrer. Hein? Donc, le fait que des insurgés s'emparent du titre royal pour se proclamer Messie et provoquent un soulèvement populaire, Ponce Pilate, en l'an 30, si c'est bien l'an 30, avait toutes les raisons de soupçonner que les choses pouvaient mal tourner. Par ailleurs, Ponce Pilate, on le sait, et par Flavius Joseph et par Philon d'Alexandrie, est un peureux. C'est un traqueux, donc un homme politique extrêmement dangereux. qui a exercé d'ailleurs une répression d'une férocité inouïe. Et donc, lorsque les Sadducéens, car ce sont très très vraisemblablement non pas les pharisiens, mais les Sadducéens qui ont mené le bal pour l'arrestation de Jésus et sa condamnation, et pour le transférer au pouvoir d'occupation romaine, qui seul était détenteur de la peine capitale, l'argument était excellent. Parce que transmettre à Pilate le fait que Jésus se proclamait ou était proclamé roi des Juifs, c'est aller chercher l'angoisse de Pilate, précisément car il y avait eu des précédents. Et des précédents dont nous parle Flavius Josèphe. Donc le risque de sédition pour Ponce Pilate était très net. Et il est vrai que Ponce Pilate, le portrait de Ponce Pilate est un peu arrangé dans les évangiles. Ponce Pilate n'est pas du tout aussi hésitant ni aussi favorable, très vraisemblablement, que nous le présentent les évangiles.
Est-ce que vous pouvez reprendre quelques mots sur la pureté, le passage sur la pureté de la deuxième partie?
Eh bien, comme il est 10h-3, ce sera la dernière question. Comme vous êtes intervenu en premier, ça nous fait une magnifique inclusion. Vous serez la première et la dernière. La pureté, oui. Vous pourriez formuler une question?
Oui, par rapport à dans le domaine social, justement. Ce que vous avez lancé, mais ce n'était pas assez développé. Dans la société d'aujourd'hui...
Ah oui, non, mais vous avez... Oui, vous avez très bien entendu ce que je voulais dire. mais je peux essayer de pousser un tout petit peu. Non, ce que je veux dire, c'est que dans les phénomènes de communautarisme qui se manifestent, je pense qu'ils sont manifestés en France avant la Suisse, mais la Suisse connaît également les mêmes manifestations de type socioculturel maintenant. Donc ces clôtures, ces verrous des communautés sur elles-mêmes, nous avons là des réflexes protecteurs. Alors, des réflexes protecteurs par lesquels une culture défend son identité et veut la préserver précisément en considérant que la société dans laquelle elle vit est une société dangereuse et contaminante. Alors, elle ne le pense pas dans les termes de pureté rituelle comme c'était le cas dans le judaïsme premier siècle, mais elle le pense surtout en termes d'identité culturelle. Hein? Et que ce phénomène de communautarisme, à mon avis, qui provoque dans la société majoritaire un communautarisme à rebours, à savoir que lorsqu'une communauté ethnique se singularise et se replie sur elle-même, on prend l'habitude effectivement de la laisser aux marges, eh bien ce phénomène de communautarisme, à mon avis, est la parfaite corrélation de ce qui se déroulait dans la Palestine au 1er siècle. Et que la question effectivement qui est posée, c'est comment éviter que notre image de l'autre se construise à partir de ces verrous culturels qui nous font d'emblée superposer à l'image des individus une image collective ressentie comme, encore une fois, dangereuse ou contaminante ou disqualifiante. Je pense qu'il nous faut effectivement beaucoup réfléchir à cela. Beaucoup. Lorsque la différence devient danger pour mon identité propre. C'est ça. Voilà. Eh bien, nous avons un bon moment de débat. Bravo.
Alors, quelques mots sur le groupe œcuménique.